Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Bertie Bourdon, mais aussi Hélène Lefrançois, Margot Le Ridon, Rosalie Suc, réalisée par Anna Holweck et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Nouvelle série donc consacrée à l'Union européenne et au nouvel élan voulu par la future présidente de la Commission. Avant de nous pencher demain sur la politique écologique de l'Union, mercredi sur l'économie, enfin jeudi sur les conséquences du Brexit pour l'Union, penchons-nous aujourd'hui sur la nouvelle Commission européenne et sur son départ manqué.
Je veux que cette Commission soit flexible, moderne, une Commission agile. Je veux présider un collège engagé qui comprend l'Europe, qui écoute ce que veulent les Européens. Nous avons maintenant clarifié les choses. Comme la semaine dernière, nous considérons les deux candidats inaptes pour leur mandat et leurs candidatures ne feront pas l'objet d'une audition, du moins pour le moment. En tant que ministre de la Justice, il a activement participé à la mise en place de ce régime illibéral en place en Hongrie. Les autorités menacent en permanence l'état de droit. Comment lui faire confiance en tant que commissaire?
Qu'est-ce qui s'est passé durant ces dernières semaines? Il y a eu des règlements de compte politiques entre les familles au Parlement. Il y a eu le commissaire hongrois qui a été bloqué, PPE s'est senti offensé, puis le commissaire roumain qui a été bloqué, les socialistes se sont sentis offensés et ils se sont dit, on va faire payer le gros pregno et on va attraper celle-ci. C'est ça ce qui s'est passé.
Prévu pour le 1er novembre, l'entrée en fonction de la nouvelle Commission européenne, présidée par l'Allemande Ursula von der Leyen, a été retardée d'un mois en raison du rejet par le Parlement des candidatures de trois commissaires, le Hongrois, la Roumaine et la Française Sylvie Goulard. Derrière les mises en doute de la probité de ces candidats, certains critiquent un jeu politicien auquel se serait livré le Parlement européen. C'est notamment le cas d'Emmanuel Macron, qu'on a entendu à l'instant, qui a dénoncé des stratégies de vengeance entre les trois principaux partis, le Parti populaire, les sociaux-démocrates et Renew, le nouveau groupe centriste auquel appartiennent justement les députés. LRM. Ces recalages illustrent bien la défiance à l'égard de la nouvelle commission dont la présidente Ursula von der Leyen n'a obtenu l'aval du Parlement européen qu'à une courte, très courte majorité, à 9 voix près, avec le concours du PiS, parti ultra-conservateur polonais, et le mouvement 5 étoiles italien. Dans ces conditions, la future commission ne risque-t-elle pas de souffrir d'un manque de légitimité? Comment imposer ses vues dans les dossiers essentiels pour l'avenir de l'Union? Et d'ailleurs, quel est le programme de cette commission? Ursula von der Leyen pourra-t-elle le déployer malgré un Parlement méfiant et des États de plus en plus repliés sur eux-mêmes? Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin Clémentine Forissier. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédactrice en chef de Contexte, journal des politiques françaises et européennes. À nos côtés, depuis Bordeaux, Olivier Costa, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment également d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au sein du Centre Émile Durkheim à l'Institut d'études politiques de Bordeaux et directeur d'études au Collège d'Europe de Bruges. Je vais commencer avec vous, Clémentine Forissier, peut-être sur une réaction, sur la réaction d'Emmanuel Macron sur, j'allais dire, le couac autour de Sylvie Goulard. C'est vrai qu'on en a énormément parlé. Qu'est-ce qu'il vous semble révéler de la vision que se fait Emmanuel Macron du fonctionnement des institutions et du Parlement européen?
Peut-être que finalement le monde a changé et que sa réaction montre qu'il n'avait pas totalement perçu que le monde avait changé, alors même qu'il en est en partie à l'origine. C'est ça qui est frappant, c'est-à-dire que ce qui s'est passé sur le cas de Sylvie Goulard, donc qui a été rejeté par les parlementaires, c'est effectivement, il n'a pas complètement tort, un peu. Un règlement de compte politique. C'est pas que ça, j'y reviendrai. Elle était la troisième, il y avait eu un candidat social-démocrate rejeté, un candidat PPE rejeté, puis Sylvie Goulard a été rejetée. Ce qui a surpris un peu tout le monde, c'est que, en général, les candidats rejetés sont plutôt des candidats qui viennent de pays moins poids lourds sur la scène politique européenne. C'est la première fois qu'un candidat français est rejeté.
Preuve qu'il y avait un réel problème.
Preuve qu'il y avait un réel problème. Les députés se sont prononcés là-dessus. Je pense que le problème qu'ils ont souligné était de deux ordres. D'une part, et ça pour le coup, c'était pas juste le PPE, parce qu'il y avait des parlementaires sociaux-démocrates qui ont pointé ça du doigt et qui sont plutôt proches de la France, qui disaient on part d'un gouvernement en France parce qu'on a des affaires et on est désigné à Bruxelles. Ça, c'est absolument inadmissible. Et puis après, il y avait un problème plus dirais, morale que légale, puisqu'effectivement, elle avait raison de dire que ce qu'elle a fait n'était pas du tout illégal. D'ailleurs, il y a pas mal de parlementaires qui devraient regarder eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire à Bruxelles sur cette histoire de double rémunération. Mais il se trouve que moralement, ça a été mal vu. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, ça a été aussi le résultat d'un Parlement européen qui est complètement, déstabilisé, qui a changé. Les vieux classiques sont partis, les accords entre des Martin Schulz, des Joseph Daul, des Guy Verhofstadt, etc. Ça, tous ces gens-là sont partis. Il y a 61% de nouveaux élus au Parlement européen. Et ça, c'est notamment
Ça change la donne.
C'est notamment le Nouveau Monde, avec ce groupe central dans lequel il y a 21 parlementaires français. Que 21, hein, ils sont 108, il n'y en a que 21, mais quand même, je veux dire, ça compte. Mais du coup, derrière, ça a entraîné une sorte d'instabilité et une revanche politique du PPE après le rejet de Manfred Weber pour être candidat à la présidence de la Commission européenne.
On va y revenir, évidemment, on va développer toutes ces idées. Olivier Costa, sur ce coup de colère d'Emmanuel Macron, alors c'est vrai qu'il a au fond une forme de responsabilité dans tout ça, parce qu'il propose une candidate qui, effectivement, n'a pas pu participer au gouvernement français, et donc, a priori, pourquoi pourrait-elle participer à la Commission européenne? Mais il y a aussi une responsabilité de Ursula von der Leyen aussi. Elle aurait pu anticiper, Olivier Costa, qu'il y avait un problème sur cette candidature. Olivier Costa.
Évidemment, en fait, on voit à l'occasion de cet incident qu'Emmanuel Macron a une vision très intergouvernementale du fonctionnement de l'Union européenne. Quelque part, il a une vision gaullienne de l'Union européenne. L'Union européenne, selon lui, ce sont des négociations au sein du Conseil européen entre les chefs d'État et de gouvernement et la présidente de la Commission européenne. Et dans sa logique, à partir du moment où les poids lourds des 28 avaient approuvé la candidature de Madame Goulard, à partir du moment où Ursula von der Leyen l'avait approuvé aussi, il n'y avait plus de raison de remettre ça en cause. Simplement, comme ça a été dit, les traités ont changé, il y a d'autres logiques qui sont à l'œuvre. Il y en a au moins deux. Une logique qui est vraiment une logique organisationnelle, le Parlement européen est là pour vérifier la conformité des candidats avec un certain nombre d'objectifs et de critères. Il s'intéresse à la compétence, il s'intéresse aussi à la probité. Le Parlement européen entend faire ça de manière totalement indépendante, sans recevoir d'instructions de quiconque. Et là, vraiment, il y a, je dirais, presque une erreur de jugement de la part d'Emmanuel Macron de ne pas l'avoir compris ou de ne pas vouloir l'avoir le comprendre. La deuxième logique, c'est une logique qui est clairement partisane. On a maintenant des élections européennes qui sont centrales dans le fonctionnement de l'Union européenne. Ce n'est pas par hasard si la désignation de la Commission arrive juste après ces élections. Ça n'était pas le cas dans le passé, dans les années 80. Et donc, le Parlement européen fonctionne de manière politique. Et effectivement, les jeux politiques qui ont été dénoncés par Emmanuel Macron, c'est aussi la démocratie représentative.
Alors, à ceci près, Olivier Costa, que quand même, précisément, la future présidente de la Commission n'était pas la candidate du parti qui a remporté les élections du printemps dernier, mais ça, on y reviendra. Clémentine Forissier, le plan B d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le plan Thierry Breton, est-ce que c'est un bon candidat, ce candidat ancien ministre de l'économie, actuel PDG du groupe Atos? Il a proposé donc cette option qu'il a transmise à Ursula von der Leyen avec un portefeuille inchangé. C'est un bon choix?
Alors, je sais pas si je peux pas prononcer sur le fait que c'est un bon choix. Ce que je peux dire, c'est qu'il y avait un enjeu important pour Emmanuel Macron, c'était de garder le périmètre du portefeuille alloué au commissaire français, qui est un périmètre énorme. Il pourrait y avoir 3 commissaires pour ce portefeuille-là.
Politique industrielle, renforcement du marché intérieur, numérique, défense, espace.
C'est ça. Donc c'est vraiment énorme. Donc pour gérer ça, avec les différentes directions générales de la Commission qui sont afférentes, ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui politiquement soit très fort, qui ait une capacité à peser, à diriger ces différentes directions générales et à peser au sein de la Commission européenne. Et donc il n'y avait pas objectivement 50 000 personnes possibles. Il y a vraiment un sujet de ressources humaines pour ce poste. Dans ce cadre-là, Thierry Breton coche pas mal de cases, puisqu'effectivement, il a dirigé des très grosses entreprises, qu'il a été ministre de l'économie, qu'il connaît l'Europe pour cette fonction-là, et aussi, il vient d'Atos, donc qui est un leader dans le monde des services numériques. C'est quelqu'un qui a une surface qui a un poids qui peut marquer dans cette commission.
Et le fait qu'il soit indirectement visé par une plainte contre X d'Anticor pour délit de favoritisme, c'est pas un problème?
Ça, justement, je pense que dans l'instabilité qu'on connaît aujourd'hui à Bruxelles, le Parlement européen va-t-il ou non valider sa candidature? Franchement, aujourd'hui, je ferai aucun pronostic. Ouais. Ça me paraîtrait politiquement extrêmement compliqué, surtout quand on compare quand même à d'autres commissaires qui ont passé les auditions et qui ont franchement pas fait des étincelles. Je pense au commissaire polonais, qui est un gros pays, la Pologne, à l'agriculture, qui a dû s'y reprendre à deux fois, qui a absolument aucune vision. Enfin, je veux dire, et on pourrait citer d'autres exemples. Mais c'est vrai que là, vu ce qui s'est passé dernièrement, on pourrait pas dire. Après, c'est quand même le commissaire français quand même, le rejeter deux fois, alors que objectivement, là, il y a peut-être cette plainte, mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, où ça en est précisément, etc. Donc, ça me paraît quand même
pas directement visé, c'est une plainte contre extra-parole. Ouais. Mais bon, c'est quand même un problème. Ouais. Olivier Costa, cette nouvelle candidature, en tout cas, elle a été très critiquée dans le paysage national français, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. On a Emmanuel Bompard, eurodéputé de la France insoumise, qui a parlé d'un choix incohérent et inconsistant. On a une Marine Le Pen qui le qualifie de macroniste pur et dur, ultra-libéral, échevelé, véritable caricature d'un immigrationniste. Est-ce qu'il faut se réjouir au fond de ces critiques? Parce que, d'une certaine manière, ça peut montrer que les logiques politiques idéologiques sont plus importantes que les logiques nationales. Ces eurodéputés ne vont pas voter pour le plan B d'Emmanuel Macron, Olivier Costa.
Alors déjà, ceux qui se sont exprimés de manière si violente, c'est pas tous les parlementaires européens, c'est un certain nombre de gens qui sont très impliqués dans la vie politique française. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune surprise à ce que les représentants des partis politiques d'opposition en France trouvent des défauts aux candidats d'Emmanuel Macron. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que Emmanuel Macron, en choisissant Monsieur Breton, a mangé son chapeau. Emmanuel Macron entendait d'une certaine manière forcer la main du Parlement européen, d'une certaine manière se prévaloir d'un accord avec Madame Merkel, avec Madame von der Leyen, pour dire le Parlement européen maintenant doit approuver mon candidat parce qu'il a été approuvé par mes collègues au sein du Conseil européen. Et cette logique-là, finalement, n'a pas pu être mise en œuvre, et donc il a été chercher quelqu'un qui va réussir ou pas à se faire valider par le Parlement européen par un certain nombre de compétences qu'il peut revendiquer. Et ça a été dit par Clémentine Forissier. Le portefeuille est énorme, il est très technique. Arriver à tenir 3 heures devant le Parlement européen sur ces sujets-là sans se faire démonter, il n'y a pas énormément de personnes qui pouvaient le faire, et je pense que Thierry Breton peut le faire. Donc d'une certaine manière, Emmanuel Macron s'est aussi plié à la logique du Parlement européen qui exige d'avoir un candidat qui soit très compétent et pas simplement un candidat qui soit fortement soutenu au sein du Conseil européen.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Olivier Costa, que désormais le Parlement ait un tel pouvoir et puisse comme ça retoquer des candidatures? Vous l'avez dit, c'est une évolution. Avant, effectivement, les membres de la Commission, ils étaient nommés d'un commun accord par les gouvernements et personne ne bronchait. Aujourd'hui, c'est très différent, on le voit. Il y a désormais un poids tout à fait nouveau, extrêmement fort de ce Parlement sur ses candidatures et sur la composition de cette commission. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie européenne, Olivier Costa?
Évidemment, avant les commissaires européens avaient une double forme de légitimité. Premièrement, ils étaient nommés par les chefs d'État et de gouvernement, mais ils devaient en être parfaitement indépendants. Leur seule ressource qui pouvait justifier leur rôle, leurs compétences et leur influence, c'était d'une certaine manière leurs compétences, le fait qu'ils étaient nommés pour être des gens qui savaient deux ou trois choses sur les affaires européennes. Simplement, on sait bien que les ajustements qui avaient lieu au sein du Conseil européen n'étaient pas toujours fortement focalisés sur la question de la compétence, de la même manière que dans les États membres, les ministres ne sont pas toujours les plus compétents sur leurs dossiers. Le Parlement européen, maintenant, va faire 3 choses à travers ces auditions. Premièrement, s'assurer que les gens sont réellement compétents. Et je pense qu'assez peu de ministres au niveau national aimeraient passer un crash test, comme le font les candidats commissaires, 3 heures devant le Parlement européen, avant même l'entrée en fonction. C'est vraiment quelque chose d'exigeant. Ensuite, ils vont aller regarder du côté de la probité, ce qui me semble très important en ces temps de crise de la démocratie représentative. Les citoyens aspirent à ce que les gens puissent faire preuve, montrer patte blanche. Et enfin, il y a aussi une logique qui est une logique politique là derrière, et ça n'a pas assez été dit. La Commission européenne est la commission la plus politique qu'on a jamais eue, parce que les logiques partisanes sont très fortement à l'œuvre dans les équilibres qui ont été trouvés dans la Commission, la répartition des sièges entre les grands groupes, la répartition des vice-présidences exécutives, et tout ceci, c'est aussi d'une certaine manière une bonne nouvelle du point de vue démocratique, si on y croit un tout petit peu.
Clémentine Forissier, habituellement, dans les systèmes parlementaires, c'est quand même le chef de file du parti qui a gagné l'élection qui est en charge de monter un gouvernement, éventuellement de forger une coalition. En réalité, alors, soit c'est une bonne nouvelle parce que le Parlement a davantage de poids, mais on n'est pas non plus dans cette situation-là aujourd'hui.
Non, parce qu'effectivement, Manfred Weber, qui est donc président du groupe PPE, n'a pas réussi à s'imposer. Mais en fait, il n'a pas réussi à s'imposer. Pourquoi? Parce que déjà, dans son propre camp, même chez les Allemands, personne ne le soutenait vraiment dès le départ. Même si Angela Merkel l'avait l'avait soutenu officiellement, c'était quand même un peu du bout des lèvres. Et en réalité, il y a peu de monde qui en voulait, je dirais, chez les Allemands et dans les autres États membres du Conseil européen, parce qu'il faut quand même pas se tromper. C'est quand même le Conseil européen qui
nomme. Il était quand même le candidat du Parti populaire européen.
Oui, mais il l'était, mais en réalité, il était soutenu par personne. Il faut quand même pas non plus oublier que le PPE a beau être sorti numéro un des élections, tout seul, on peut rien faire sans lui, mais tout seul, il ne peut rien. Et le groupe du centre a quand même 108 députés, et les sociaux-démocrates sont quand même la deuxième force du Parlement. Et les Verts aussi sont sortis très renforcés. Donc il y a un moment où on s'est demandé si effectivement il pouvait y avoir une majorité qui se fasse de façon un peu alternative. Là, en fait, ce que ça révèle surtout, je pense que c'est vrai que le Parlement européen s'est vraiment affirmé dans cette séquence. Faut pas non plus oublier ce qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire que ça révèle aussi, surtout, que le PPE est un groupe qui est intrinsèquement divisé. Jusqu'à peu de temps avant la deuxième audition de Sylvie Goulard, certains au PPE étaient prêts à la soutenir en échange peut-être d'une réduction du périmètre du portefeuille. Finalement, les Français voulaient absolument pas en entendre parler. Et Manfred Weber a dû faire face à une fronde des pays du nord de l'Europe dans son groupe qui était déjà sorti extrêmement divisé à l'issue justement du processus de nomination en juin, qui lui ont dit, nous, il est hors de question, parce que pour les pays du nord de l'Europe, les questions éthiques et morales sont vraiment beaucoup plus, je dirais, radicales que chez nous. Il était hors de question de soutenir Sylvie Goulard, et donc il a dû protéger son groupe, en fait. Donc, ce que ça révèle aussi, c'est qu'au sein des différents groupes du Parlement européen, et notamment du PPE, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de fractures. Ce qui veut dire que le Parlement va être aussi très difficile à gouverner, et il va être compliqué de trouver des majorités dans la future législature.
Alors, justement, sur ce point-là, en particulier, Olivier Costa, parce que j'allais dire, à l'époque de Juncker, les choses étaient assez simples. Il suffisait de se mettre à la table avec le PPE et puis les sociaux-démocrates, et puis on trouvait une forme de consensus et on avançait comme ça. Là, quand même, on a un paysage qui est différent, avec un groupe centriste qui est quand même désormais bien présent, sur lequel il va falloir compter. On a par ailleurs effectivement des Verts qui sont considérablement montés en puissance. Jusqu'où est-ce que ça peut rendre difficile le travail de la future présidente de la Commission, Olivier Costa ?
Ça risque d'être compliqué. Il faut bien voir que pour la première fois dans l'histoire de l'intégration européenne, les deux grands groupes, le PPE et le PSE, les démocrates chrétiens et les socialistes, ont perdu la majorité qu'ils avaient au sein du Parlement européen. Ils ont en gros décliné de 5% dans leur total des voix à chaque élection européenne ces 25 dernières années, jusqu'à arriver maintenant nettement en dessous de 50%. De fait, ils sont obligés de trouver un nouvel allié, et ce nouvel allié, ce sont les libéraux. Alors, c'est pas complètement nouveau, puisque les libéraux étaient déjà à la manœuvre en 2014 avec les socialistes et les démocrates chrétiens, mais ce qui change beaucoup, c'est que maintenant les libéraux se sentent pousser des ailes. Et une partie de la séquence Goulard est aussi liée à ça, au fait que le groupe Renew a peut-être un peu surestimé sa capacité à faire pression sur tout le monde au Parlement européen en disant « Nous sommes le parti pivot, maintenant il n'y a plus de majorité possible sans nous, vous allez nous entendre et faire ce qu'on veut. » Et on veut que Sylvie Goulard soit commissaire européenne. Donc on voit qu'on est dans des logiques un petit peu d'ajustement. Il y a un processus d'apprentissage entre les trois grands groupes à travailler dans cette nouvelle configuration politique, ce qui est aussi nouveau par rapport à 2014.
Mais il n'empêche qu'il y a un peu du vrai, Olivier Costa, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans eux. On ne peut pas faire de majorité sans eux.
On ne peut pas faire sans eux, mais après, il faut éviter aussi de la jouer trop à la française. Et on l'a bien vu, il y a déjà eu deux incidents de ce point de vue-là. Il y a eu l'arrivée un peu difficile de Madame Loiseau au Parlement européen, qui a tout de suite été dressé un portrait très acide de tous ses collègues au sein du Parlement européen, ce qui ne se fait pas au Parlement européen.
Et ce qui lui a coûté la présidence du groupe ?
Tout à fait. Il y a eu aussi Madame Goulard, il faut pas l'oublier, dans ses auditions. Elle n'a pas toujours été très habile dans le ton qu'elle a employé. On attend toujours les Français au tournant. On attend toujours qu'ils soient arrogants, prétentieux, etc. Le problème, c'est que là, les Français ont été un peu trop dans le stéréotype et ça ne facilite pas le fonctionnement au sein du Parlement européen. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation difficile parce que dans les groupes politiques, comme l'a dit Clémentine Forissier, on a un certain nombre de divisions. On a des délégations nationales qui n'ont pas envie de travailler à trois avec les autres groupes et qui demandent à voir. Et donc les négociations se feront texte par texte.
Clémentine Forissier.
Sur ce sujet, j'ai une petite anecdote. C'est côté français, quelqu'un me disait récemment ce qui s'est passé avec le groupe Renew, donc le groupe du centre, au moment des auditions, c'est que en général, dans ces processus-là, on sait que c'est une guerre, qu'il va y avoir des otages, et à la fin, on libère les otages. Sauf que là, ils ont fusillé tout le monde tout de suite. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le candidat hongrois a été rejeté parce que notamment le groupe Renew a montré son hostilité assez forte au moment de l'examen de sa probité justement. Et ça, que ça se passe de cette manière-là, à ce moment-là, ça a été vraiment hyper mal vu par le groupe PPE, qui du coup s'est senti vraiment très agressé, parce que c'est arrivé très très en amont en fait de la procédure. C'était même pas après l'audition du candidat en question. Ce que ça montre, c'est que ce groupe dans lequel se trouvent les Français de En Marche, c'est un groupe tout jeune. C'est-à-dire que certes,
21 eurodéputés sur 108, c'est ça.
21 eurodéputés sur 108. Enfin, c'est un groupe tout jeune. Il s'est fondé sur les cendres entre guillemets du groupe ADLE, mais aujourd'hui d'ailleurs, d'abord la gouvernance de ce groupe, elle démarre tout juste. C'est donc Dacian Ciolo, qui est l'ancien premier ministre roumain, qui a pris la tête de ce groupe après, comme ça a été rappelé, l'échec de l'arrivée de Nathalie Loiseau, qui voulait au départ prendre la tête de ce groupe. Mais au sein de ce groupe, il faut aussi qu'ils trouvent un peu leur marque. Le pilotage de ce groupe par Dacian Ciolo, c'est un peu critiqué à Bruxelles parce que peut-être qu'il faut un petit peu plus de sens politique. Avant, c'était Guy Verhofstadt, qui était un ancien premier ministre belge, alors qu'il avait l'habitude de ces espèces de multiples coalitions où il faut absolument en même temps faire avancer les choses et préserver les susceptibilités des uns et des autres. Bref, ils ont encore un peu tout à prouver, ce groupe. Et là, on a vu aussi que peut-être dans cette phase-là, je dis pas qu'il fallait pas prendre la décision qu'ils ont prise, je dis juste que tout ça est un peu balbutiant et que certes, on ne peut pas faire sans eux, mais qu'aujourd'hui ils ont quand même encore pas mal de choses à mettre en place.
Quelle est la réelle influence d'Emmanuel Macron sur ce groupe-là? Mais 21 eurodéputés sur 108, c'est pas beaucoup.
Alors 21 eurodéputés sur 108, c'est pas beaucoup. En même temps, c'est la plus grosse délégation et de loin de ce groupe, parce que si ma mémoire est bonne, je crois que la deuxième délégation, ils ont un peu moins de 15 députés, donc ils ont quand même un peu d'avance. En fait, je pense qu'il a une forte influence. Dacian Ciolo est aussi un Roumain, mais qui est franco-roumain, qui est marié à une Française. Il était commissaire à l'agriculture par le passé, assez proche des Français, et il est très francophile. Il connaît très bien les Français. Il a une influence, mais il n'est pas non plus.
Jusqu'où elle va son influence? Est-ce qu'il peut imposer concrètement
On a vu que non avec les autres groupes et. Je suis pas certain que sur les dossiers à venir, notamment par exemple si on pense à des dossiers, je sais pas, sur l'intégration de la zone euro, ce genre de choses-là, il y a aussi des pays qu'il faut pas oublier la double logique. Au Parlement européen, c'est d'un côté à l'intérieur des groupes des logiques de groupes, mais aussi des logiques nationales. Et il y a forcément des délégations qui seront pas favorables à certains de ces projets. Donc son influence, elle est limitée.
Olivier Costa, sur l'influence du président français dans ce groupe centriste au Parlement européen.
C'est une histoire intéressante. Quand Emmanuel Macron a été élu à la présidence en 2017, on se souvient qu'il avait fait une campagne très pro-européenne, alors même qu'on lui disait que c'était un sujet casse-gueule et qu'il devait pas aller par là. Une fois élu, tout le monde l'a vu comme d'une certaine manière le sauveur de l'intégration européenne, l'homme qui allait apporter l'énergie qui manquait au moment où Madame Merkel était sur le déclin, les Anglais dans la panade, les Italiens, les Espagnols également. Et donc, tout le monde comptait beaucoup sur lui pour proposer quelque chose, relancer l'intégration européenne. Macron a pensé un temps, je pense, qu'il y aurait dans différents États membres des groupes similaires ou des partis similaires aux siens, centristes, pro-européens, qui allaient émerger et bousculer un peu l'ordonnancement politique, comme ça avait été le cas en France. Le problème, c'est que ça n'est pas arrivé, il s'est retrouvé un peu tout seul pour changer les choses. Donc sa deuxième stratégie, son plan B, c'était de travailler à travers le Parlement européen et de se saisir des élections européennes comme d'une occasion de renverser la table, de créer au Parlement européen un grand groupe centriste et pro-européen qui pourrait être son instrument. Et là aussi, on voit que ça n'a pas marché terriblement bien, puisqu'elle a été obligée finalement de s'en remettre à une négociation avec les libéraux, qui sont là depuis toujours, et qu'ensuite l'atterrissage des députés En Marche au Parlement européen ne se passe pas très bien. Et le cas de l'affaire Goulard est la démonstration, la preuve par neuf, du fait que Emmanuel Macron ne peut pas contraindre le Parlement européen à faire ce qu'il a envie de faire, quand bien même il se serait entendu avant avec Mme Merkel, avec Mme von der Leyen ou avec les responsables des groupes politiques.
Mme von der Leyen, justement, comment est-ce qu'elle envisage son travail avec le Parlement européen? Olivier Costa.
C'est une question qui est compliquée parce que il faut voir que Madame von der Leyen n'a pas une grande expérience des questions européennes. Vous avez dit tout à l'heure, fait la comparaison avec Jean-Claude Juncker, on est dans une situation très différente. Depuis Delors, tous les présidents de la Commission européenne étaient des anciens chefs d'État ou des chefs de gouvernement, donc des gens qui étaient vraiment rompus aux affaires européennes, qui avaient siégé au Conseil européen, qui étaient connus et qui étaient soutenus. Madame von der Leyen arrive un petit peu comme un outsider dans cette affaire. faire. Elle ne connaît pas bien la Commission, elle ne connaît pas bien les institutions européennes, et un certain nombre d'experts des choses européennes à Bruxelles s'inquiètent aujourd'hui un petit peu de sa stratégie, de son enfermement. Ses principaux conseillers sont des gens qui travaillaient avec elle à l'époque au ministère de la Défense, et la prise, pour l'instant, enfin la greffe ne prend pas beaucoup au sein de la Commission européenne.
Attendez, elle n'a pas commencé encore, elle n'a pas commencé.
Elle n'a pas commencé, mais elle aurait déjà pu constituer son cabinet, avoir un cabinet de gens qui connaissent bien la Commission européenne, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, les réseaux de Madame von der Leyen dans les institutions européennes ne sont pas très développés. Et je pense aussi qu'au Parlement européen, un certain nombre de gens lui tiennent rigueur d'avoir négocié un petit peu des choses dans le dos du Parlement européen. Là, encore une fois, l'affaire Goulard est tout à fait emblématique de ça. Et surtout, de trop s'en remettre au Conseil européen pour un certain nombre de choses. Les traités sont clairs. Les traités disent, ils revient au président de la Commission d'attribuer les portefeuilles et de décider qui est président et vice-président. Et Madame von der Leyen a été négocier tout ça au sein du Conseil européen, ce qui n'est pas l'esprit des traités.
On va revenir sur son rapport au Conseil, mais d'abord, je voudrais vous entendre, Clémentine Forissier, sur le rapport futur de Madame von der Leyen avec le Parlement. Il y a effectivement un certain nombre de choses qui peuvent faire que on peut imaginer que ça risque d'être compliqué. Et en même temps, elle a déjà pris un certain nombre d'initiatives. Elle parle par exemple d'un droit d'initiative du Parlement pour donner davantage de pouvoir encore aux eurodéputés. Il va falloir aussi regarder ce qu'il y a très concrètement derrière cette initiative. Comment vous voyez-vous le futur des relations entre la présidente de la Commission et le Parlement européen ?
Bah, l'histoire récente nous montre qu'elle va vraiment pas pouvoir faire sans et qu'elle va devoir effectivement essayer de créer du lien avec ce Parlement qui est très instable et dans lequel il va être extrêmement difficile de trouver des majorités. Ce droit d'initiative parlementaire, d'ailleurs, c'est un peu une sorte de cadeau, dans le sens où je juge pas en disant que c'est négatif ou positif, mais c'était pas forcément prévu au départ. Elle l'a sorti après avoir fait quelques réunions au sein des différents groupes où elle avait assez peu impressionné ses interlocuteurs. Et il fallait clairement, avant son vote,
Concession.
C'est une sorte de concession.
C'est quoi ce droit?
En fait, aujourd'hui, la Commission européenne est la seule à pouvoir proposer des initiatives, enfin avoir l'initiative législative, c'est-à-dire de proposer des mesures politiques. Le Parlement européen peut faire des rapports pour avis, mais en fait, voilà, ils peuvent aussi très bien rester sur une étagère et personne ne s'en préoccupe. L'histoire de l'initiative citoyenne européenne n'a pas spécialement très bien marché dans la précédente mandature. Donc là, l'objectif, mais encore une fois, il faut voir ce qu'on y met réellement, c'est de dire aux parlementaires européens de si vous voulez proposer quelque chose, je m'en saisirai et ensuite essaierai d'établir une législation appropriée
c'est
en fonction.
Une petite chose, ça serait un changement de paradigme profond en réalité.
Ce serait un changement de paradigme assez profond, mais encore une fois, il faut voir ce qu'elle met dedans. Donc avant de dire que c'est un changement de paradigme profond, faudra regarder les détails.
Vous pensez que c'est une coquille vide ?
Non, j'en sais rien, mais je dis juste que si effectivement
la proposition est sur la table, après c'est difficile de revenir en arrière.
Certes, mais ça peut être très encadré.
Ouais. Olivier Costa, sur ce droit d'initiative du Parlement qui potentiellement peut vraiment apporter une vraie évolution dans
C'est de la poudre aux yeux. Ce droit d'initiative indirecte existe depuis le traité de Maastricht. Le Parlement européen peut adopter des résolutions qui sont une sorte de proposition de proposition. Et ensuite, il revient à la Commission européenne de prendre ça en considération ou pas. Comme l'a dit Clémentine Forissier, la Commission n'a pas donné suite à la plupart des initiatives citoyennes européennes. C'est la même logique. Il y en a eu 22 pendant le mandat Juncker. Une seule a été prise réellement en considération. Et les initiatives de l'initiative du Parlement européen, là aussi, ne sont pas fortement prises en compte par la Commission européenne. Et je crois, au-delà de ça, c'est pas vraiment la logique des institutions européennes que le Parlement européen fasse beaucoup de propositions. Et c'est pas la logique, je dirais, des systèmes politiques contemporains. Si on regarde dans les États membres, 90% de la législation est d'origine gouvernementale, quoi qu'il en soit. Mmh. Et même en France, le Parlement a la possibilité de faire des propositions de loi, mais elles sont rarement menées à leur terme. Et souvent, c'est souvent des choses qui sont plus symboliques. L'Union européenne, elle, c'est une machine à réguler, à faire des politiques publiques qui sont extrêmement complexes. Et il n'y a que la Commission européenne qui a la capacité à faire des textes qui ont du sens pour s'insérer dans une jungle juridique extrêmement complexe. Donc le Parlement européen sera content s'il peut faire passer deux ou trois textes par législature, mais vraiment c'est une concession symbolique.
Et alors, justement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette Commission européenne, Clémentine Forissier ? Parce que c'est très intéressant d'avoir une commission, c'est très intéressant aussi de voir que certaines candidatures sont rejetées. Mais finalement, c'est pour faire quoi tout ça ? Je veux dire, est-ce que la composition de cette commission a réellement la moindre importance ? Est-ce que cette commission a un programme, un projet politique ? Il serait peut-être différent de si ça avait été une autre composition. Je veux dire, est-ce qu'on n'est pas là juste en réalité pour gérer les affaires courantes, faire en gros ce que le Conseil nous demande et point ?
Ah non, je pense pas qu'on puisse dire ça. D'ailleurs, il s'agit de voir un peu ce qui a été fait quand même sous le bilan de Jean-Claude Juncker pour dire que c'est pas uniquement une caisse d'enregistrement qui produit de la norme. La Commission, elle fait des propositions qui sont politiques et qui emmènent l'Union dans une direction ou dans une autre.
Alors, quel est le projet politique de von der Leyen?
Parmi les quelques points qui me semblent intéressants à relever, d'abord, mais encore une fois, il faudra voir ce que ça veut dire concrètement. Il y a deux choses qui sont assez frappantes. D'une part, elle a quand même parlé d'un Green Deal dans les 100 jours. Donc, son objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum, en fait, de législation européenne, quels que soient les sujets abordés, soit passé au tamis de cette vision écologiste des politiques publiques. Après, il faudra voir exactement ce qu'il en est derrière. Et puis, il y a quand même des pays aussi en Europe qui sont pas forcément pour ce genre de problématiques-là. Il y a aussi un autre aspect qui est assez intéressant, c'est qu'elle a dit qu'elle voulait que sa commission soit géopolitique. Jean-Claude Juncker avait dit que sa commission devait être politique. Là, c'est géopolitique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union aujourd'hui, ces 5 dernières années, mis à part peut-être la crise migratoire et encore, c'est quand même beaucoup concentré sur des problématiques internes. Là, on voit bien qu'on est dans un écosystème international qu'il faut absolument prendre en considération, quels que soient les sujets. Là, par exemple, la dernière en date marquante, c'est la question de la taxe sur les GAFA. On ne peut pas faire comme si l'Union européenne était seule à gérer ces petits problèmes. Il faut absolument se poser la question de notre impact vis-à-vis des deux grands géants ou des trois grands, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine et puis tous les pays émergents.
On reviendra sur cette question de la commission géopolitique, si vous le voulez bien. Olivier Costa, sur le programme de cette commission-là, et peut-être du coup, faut regarder là quelle marge de manœuvre par rapport au Conseil, parce que quand même, quand on regarde les choses, ce qui va a priori constituer la feuille de route pour cette commission, c'est un texte qui a été défini par le Conseil pour la période 2019-2024, ce qu'on appelle le New Strategic Agenda. C'est bien ça qui va faire le contenu, le corpus du projet politique de la Commission pour les 5 prochaines années. Et c'est donc bien le Conseil qui décide de tout ça. Olivier Costa.
On est dans des logiques d'ajustement. Vous avez raison, le Conseil européen a adopté en juin 2019 un nouvel agenda stratégique qui définit un certain nombre de priorités pour les 5 années qui viennent, mais qui est un document finalement assez faible. Il y a plein de sujets qui ne sont pas du tout évoqués parce que le Conseil européen travaille à l'unanimité et il y a des sujets dont on peut pas parler parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi les programmes politiques des groupes au Parlement européen, les trois principaux groupes notamment, les démocrates chrétiens, les socialistes, les libéraux, qui avaient des agendas extrêmement précis. Et Mme von der Leyen, elle a essayé de trouver finalement une voie moyenne entre ça, prendre en compte un petit peu les propositions du Conseil européen, mais aussi ce que veulent les groupes politiques pour arriver à trouver une majorité. Il ne faut pas oublier que la présidente a été élue au Parlement européen au terme de la présentation de son programme. Donc il y a quelque chose de fondamentalement politique là derrière. Donc c'est une espèce d'appariement de ces deux logiques. Mais il y a autre chose.
Ce qui est un peu étonnant d'ailleurs, Olivier Costa, parce qu'en général, le projet politique, on le soumet aux électeurs. Enfin bon.
Oui, mais il faut bien voir qu'on est dans une configuration politique qui est extrêmement complexe à l'échelle de l'Union européenne. On essaye d'articuler une logique qui est intergouvernementale. On a 28 États qui sont là et très soucieux de leur souveraineté et une logique politique qui s'exprime dans les élections européennes. Mais je pense que le vrai enjeu, quand on réfléchit en termes de marge de manœuvre de la Commission, est le suivant. Dans quelle mesure est-ce que les commissaires vont être capables d'imposer une ligne politique à l'organisation qu'est la Commission européenne? Parce que quand on parle de Commission, on parle toujours de deux choses. C'est le collège des commissaires, c'est les 28, mais c'est aussi toute la technostructure qui est derrière, 35 000 fonctionnaires qui, eux, font les politiques, gèrent les politiques. Et le vrai enjeu pour un commissaire, c'est à un moment donné d'arriver à imposer sa vision sur celle de la technostructure qui a souvent des priorités et des visions qui sont différentes.
Et il peut le faire? Ou c'est peine perdue?
Non, il peut le faire. Un bon commissaire peut le faire. Et c'est pour ça que le Parlement européen insiste tant sur la question de la compétence et la question de la probité. Parce que un commissaire qui est compétent et qui n'a pas de casserole a la possibilité, a l'autorité politique à un moment donné pour imposer à ses directions générales un certain nombre d'idées. Si le commissaire n'est pas compétent et qui fait rire tout le monde dans les réunions, si en plus il trimballe des casseroles, il est évident que le commissaire, sitôt qu'il commencera à avancer une idée, tout son staff, les directeurs généraux, les gens dans la technostructure vont dire, mais écoutez, cher monsieur, tout ça n'est pas possible, vous racontez n'importe quoi. Donc il y a vraiment un jeu de pouvoir entre les commissaires qui sont plus politiques et l'administration qui est plus, on va dire, bureaucratique.
Clémentine Forissier, puis ensuite on parlera de cette commission géopolitique, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, en tout cas dans l'esprit de Mme von der Leyen.
De ce point de vue-là, c'est pas très différent de ce qui se passe en France. Hein. Vous avez des ministres qui ont une capacité à faire bouger leur administration et à obtenir des concessions politiques, parce que en fait, il faut pas dissocier celui qui produit la norme de celui qui donne la direction, sinon vous avez, ça ne peut pas marcher en fait. Une administration, au bout d'un moment, si elle est laissée en roue libre, elle va impulser forcément une direction politique. En fait, derrière la technique, il y a des choix politiques qui sont faits. Ce que je veux dire, c'est que ça, de ce point de vue-là, c'est pas très différent de ce qui se passe en France.
Alors, vous l'avez dit, quand Madame von der Leyen a parlé d'une commission géopolitique. Alors, on sait qu'elle a été ministre de la Défense, Ursula von der Leyen. Donc, elle a évidemment beaucoup pensé à ces questions-là, à la place de l'Europe dans le monde. Qu'est-ce qu'elle veut dire par une commission géopolitique? Et qu'est-ce qu'il y a derrière, très concrètement? Quels sont les outils qu'elle veut mettre en place pour précisément faire de sa commission une commission géopolitique?
Alors, ce qu'elle veut dire par là, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer une politique publique sans se poser la question de son impact ou de la prise en compte des grands acteurs mondiaux, en fait, que cette politique peut avoir. Et très concrètement, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de changer, ne serait-ce que même, l'organisation interne du fonctionnement de la Commission pour prendre en compte cette problématique-là. En fait, jusqu'à présent, le ministre des Affaires étrangères, même si c'est pas son titre exact, le haut représentant pour les affaires étrangères, était un peu tout seul à voyager, je schématise, hein, tout seul à voyager, mais son travail, du coup, n'était pas relié à ce travail que fait le Collège des commissaires de façon hebdomadaire, je dirais. Là, ce que veut faire Ursula von der Leyen, c'est créer des comités qui soient capables de travailler l'aspect géopolitique des politiques publiques élaborées au niveau de l'Union européenne, et pour mettre en confrontation permanente ces deux choses-là. Donc elle veut, c'est pas juste des mots, elle veut adapter son organisation à ce besoin-là, en fait, qu'elle a identifié.
Et ça peut mettre un terme à l'impuissance générale de l'Union européenne sur à peu près tous les dossiers du monde?
Mais en tout cas, l'ambition, c'est, je sais pas si elle peut y parvenir, parce qu'il faut quand même pas oublier que la géopolitique n'est pas gérée uniquement à Bruxelles, que les diplomaties nationales sont encore très fortes, la première d'entre elles étant la France, qui a absolument pas l'intention qu'on lui dame le pion sur tout un tas de sujets. Mais malgré tout, il s'agit de pas, il s'agit de positionner l'Union avec, d'un côté, la gestion de ses problématiques internes, mais aussi une ouverture vers l'extérieur pour être un acteur en tant que tel.
Quelle idée elle a, par exemple, et je vous donne la parole, Olivier Costa, sur ce point-là, quelle idée a-t-elle, Ursula von der Leyen, de l'Europe de la défense?
Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a une différence entre l'idée qu'elle en a et la capacité à agir. Mmh. La direction générale de la défense qui va être créée, qui institutionnellement est nouvelle, mais il y avait déjà des gens à la direction générale du marché intérieur qui s'occupaient des questions de défense. On parle plutôt d'industrie de défense, on parle d'autonomie stratégique, on parle pas d'armée européenne comme ce qui a pu être dit à une époque. Hein. C'est pas très différent.
Elle n'en parle pas non plus.
Non.
Olivier Costa? Sur cette commission géopolitique.
On aimerait bien le savoir. On voit que, évidemment, elle a un intérêt particulier pour cette question. Et cette histoire de commission géopolitique part du constat, voilà, d'un monde qui change. Monsieur Trump, monsieur Poutine, la Chine, les grands enjeux qui sont tous internationaux. L'idée, c'est que l'Union européenne doit cesser d'être complètement focalisée sur son marché intérieur et développer toutes les politiques dans un contexte qui est un contexte global. Et c'est exactement ce qui est au cœur du New Strategic Agenda du Conseil européen, qui disait: maintenant, l'Union européenne doit être un acteur global, et surtout, l'Union européenne doit être dans une position de piloter et pas simplement de réagir. La commission Juncker, elle a beaucoup subi les événements, et donc ce que voudrait le Conseil européen, c'est que l'Union européenne soit à la manœuvre, s'impose comme une espèce de leader sur un certain nombre de dossiers. Alors l'Union européenne l'a été par exemple sur la question du réchauffement climatique, mais pas du tout sur les questions de sécurité jusqu'à présent. Mais tout ça, ça reste absolument à définir, et on a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, des tensions forte entre les autorités françaises et les autorités allemandes sur les questions de défense, avec les Allemands qui ont pris un certain nombre d'initiatives sans consulter personne. Et donc, un des grands enjeux de la commission von der Leyen, ça va être de mettre du contenu dans toute cette affaire de commission géopolitique. Ok, d'accord, il faut raisonner maintenant à l'échelle globale, tout le monde est d'accord, mais pour faire quoi? Et ça, c'est un enjeu sur les questions de défense, mais aussi sur des politiques tout à fait centrales de l'Union européenne, comme la politique de la concurrence. On sait qu'un des grands sujets de débat sous Juncker, ça a été cette interdiction de la fusion entre Alstom et Siemens, et les gens qui disent, mais c'est une vision interne qui est complètement stupide, parce que à vouloir organiser une saine concurrence sur le marché européen, on empêche l'émergence de champions européens capables de rivaliser à l'échelle internationale. Donc cette dimension géopolitique va avoir un impact sur toutes sortes de politiques.
On en reparlera évidemment toute cette semaine. Clémentine Forussien, encore un mot avant d'évoquer la Roumanie et d'accueillir une nouvelle invitée pour parler des blocages qu'il y a du côté de la Roumanie. La question de la Grande-Bretagne, alors on va en parler assez largement jeudi, mais on vient d'apprendre là ce matin qu'il y a un nouveau report qui est quasiment acté, ça sera donc finalement fin janvier. Ça veut dire qu'il faut que la Grande-Bretagne ait un commissaire européen là. Ursula von der Leyen doit mettre un nouveau commissaire dans son équipe?
Ça fait partie des deux conditions qui ont été mises sur la table ce week-end, enfin ce matin, par les 27. C'est que, effectivement, les Britanniques, vu qu'un nouveau report a été octroyé, doivent logiquement nommer un commissaire. Mais la présidente de la commission a dit déjà que ce serait un commissaire à rien, c'est-à-dire qu'il serait sans portefeuille. Donc c'est vraiment absurde, mais les institutions sont telles qu'elles sont. Le Royaume-Uni fait toujours partie de l'Union européenne, au moins jusqu'au, on ne sait pas très bien quand, parce que si jamais des événements au Royaume-Uni précipitent l'acceptation du deal, ça peut être rapide, mais en tout cas jusqu'au 31 janvier.
Olivier Costa, réponse rapide, parce qu'on va parler dans un instant de la Roumanie, mais on est dans cette situation-là, on va avoir une candidature britannique avec un candidat qui va passer devant les eurodéputés pour défendre sa vision, son projet, sa probité, pour rien. Enfin, Olivier Costa.
Pas pour rien, ils vont lui donner un truc organisationnel. On peut se souvenir de 2007 quand on a eu l'élargissement à la Bulgarie et à la Roumanie. Le commissaire roumain, si je me souviens bien, était commissaire au multilinguisme. Donc on va lui donner quelque chose d'un peu organisationnel. Mais c'est très important qu'il soit commissaire à rien. Parce que si on regarde ce qui se passe au Parlement européen et au Conseil depuis 2 ans, au Parlement européen, les députés britanniques sont extrêmement actifs et ont tendance à voter un peu contre tout. Mmh. Et au Conseil, on voit le Royaume-Uni depuis 2 ou 3 ans qui s'abstient ou qui vote contre systématiquement sur les vote à la majorité qualifiée, ce qui rend plus difficile l'adoption des textes, parce que quand on adopte un texte à la majorité qualifiée, ne compte que les votes en faveur. Donc il est vraiment important que ce commissaire n'ait pas la possibilité de bloquer le fonctionnement de la commission, et j'espère que Madame von der Leyen y verra.
On est avec vous Olivier Costa et vous Clémentine Forissier dans cette nouvelle série consacrée à l'Union Européenne, un nouvel élan. Aujourd'hui, passation à la commission, faux départ pour von der Leyen.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va parler de la Roumanie, puisque Rovana Plumb, préposée au transport dans la nouvelle Commission européenne, fait partie de ces 3 candidats recalés par le Parlement européen, alors qu'il aurait dû proposer une autre candidature. Eh bien, le gouvernement roumain a été renversé le 10 octobre dernier par un vote au Parlement. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette crise? Et qu'est-ce que ça nous dit du rapport aussi, peut-être, de la Roumanie à l'Europe? Bonjour, Irène Costelian.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste correspondante à Bucarest pour Libération. D'abord, en quelques mots, Irène Costelian, vous nous rappelez pourquoi cette candidature roumaine a été rejetée?
Alors, tout simplement parce que Rovana Plumb fait partie de ces personnages politiques roumains qui sont très controversés, notamment pour des enjeux accusés d'abus de pouvoir en 2017 dans une affaire de corruption majeure qui touche carrément tout le pays. Donc c'est pour des raisons d'éthique qu'elle a été recalée.
Il y a visiblement des accusations de corruption dans une affaire de transfert illégal du Nil, du Danube à des sociétés privées, si j'ai bien compris.
Ouais. Exactement.
Qui est responsable, Irène Costelian, de ce rejet? Est-ce que c'est seulement le résultat d'un rejet des eurodéputés qui doutaient de sa probité et peut-être à raison ou à tort, j'en sais rien? Ou est-ce que c'est aussi le travail, peut-être un travail, disons, plus souterrain d'un certain nombre de pays qui s'y opposaient, qui s'opposaient et qui voulaient peut-être à travers cela, parce que c'est ce qu'on dit beaucoup en Roumanie, pointer du doigt, au fond, les déviances, peut-être, du gouvernement roumain?
Alors, c'est très difficile à dire, hein, à mon avis. Je pense que l'Union européenne est en ce moment dans une phase où on veut vraiment des personnages éthiques. On a beaucoup parlé de corruption, on le voit très bien au niveau interne dans tous les pays. Et la Roumanie a souvent, et depuis de nombreuses années, été un fer de lance dans la lutte anticorruption. Ouais. Jusqu'à l'arrivée du PCD qui a gagné les législatives en décembre 2016 et une régression constante jusqu'à récemment. En fait, jusqu'à juin dernier, où Liviu Dragnea, qui était le chef du PCD, est incarcéré pour abus de pouvoir. Et donc là s'achève en fait cette espèce de saga incroyable en Roumanie sur une régression sur la lutte anticorruption.
Ouais, il avait été condamné et emprisonné au lendemain des élections européennes, perdu par son parti.
Oui. Ouais. Oui. Exactement. Mais c'est surtout parce que l'affaire datait depuis longtemps et qu'il était arrivé au bout en fait des appels et des recours possibles dans l'affaire qui l'a mené en prison et pour laquelle il est incarcéré pour quelques années.
Il y a une autre figure importante, Irène Costelian, quand on parle en particulier de corruption et de lutte contre la corruption en Roumanie, c'est l'icône roumaine de la lutte anticorruption qui est Laura Codruta Kövesi, qui avait été révoquée de ses fonctions. Elle était procureure en chef de la Direction nationale anticorruption. Et il se trouve que le mois dernier, elle a été désignée à la tête du parquet antifraude européen qui devrait voir le jour en 2020. Est-ce que cette nomination, c'était aussi une manière de signifier à la Roumanie qu'elle est dans le collimateur de l'Union ?
Alors je ne sais pas, j'ai pas entendu ça particulièrement lors de mes passages, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg. En tout cas, il est clair que parmi les candidats, parce qu'il faut regarder aussi les candidats qui étaient en présence et qui étaient ses concurrents lors de cette désignation, les autres n'avaient pas un palmarès aussi important qu'elle. Et ils n'étaient pas non plus aussi spécialisés qu'elle dans cette lutte anticorruption. Elle a mené de front en fait un assainissement de la classe politique et de la société roumaine, ce qui était assez impressionnant, puisque la Roumanie, quand elle rentre dans l'Union européenne en 2007, elle est vraiment vraiment aux confins de la lutte de l'anticorruption. C'est un pays ultra corrompu, avec des législations qui ont été mises en œuvre évidemment, mais Kövesi fait un travail exceptionnel à la tête du DNA, c'est donc le parquet anticorruption en Roumanie, et depuis qu'elle a été malheureusement aussi avec l'aide du président Klaus Iohannis, qui est libéral, et ça on le verra, ça a des conséquences actuellement au niveau européen. Malheureusement, la Roumanie est un peu à la dérive, puisqu'ils n'ont toujours pas trouvé de chef. Donc c'est une institution qui n'a toujours plus de procureur en chef à l'heure actuelle.
Vous restez avec nous, Irène Costelian, je voudrais faire réagir Clémentine Forissier sur ce point-là. C'est avant tout les compétences de cette procureure qui fait qu'elle a été nommée par l'Union européenne. Ce n'est pas une manière de punir la Roumanie.
Ah oui, non, je crois qu'on peut pas dire ça.
Non, mais c'est des choses qu'on a entendues très régulièrement. Irène Costelian, est-ce qu'on a une toute petite idée de qui pourrait remplacer Rovana Plume ? Est-ce qu'il y a des postulants, des postulantes pour cette candidature de commissaire ? On a parlé tout à l'heure du plan B français de Thierry Breton. Du côté de la Roumanie, c'est quoi le plan B ?
Alors le plan B, alors la Roumanie, comme vous le disiez en introduction, c'est un peu difficile, parce que là on est sur un nouveau, enfin on a désigné un nouveau premier ministre, c'est un libéral, il s'appelle Ludovic Orban, c'est pas du tout le cousin de Victor qui est en Hongrie, mais c'est
premier ministre de transition en attendant l'élection qui aura lieu le 10 novembre.
Oui, ouais. Et donc en fait il est toujours pas investi. Et normalement, ce sont les libéraux qui devraient désigner un nouveau candidat. Il est question que ce soit décidé dans la journée ou dans la semaine. Mmh. On parle au sein du PNL, donc du Parti National Libéral Roumain, on parle de Sigrid Mureșan, qui est donc député européen, et qui prendrait les transports. Mais il est un peu ironique quand même que ce soit un Roumain qui soit au transport, étant donné quand même un des gros problèmes de la Roumanie, c'est l'infrastructure routière qui manque énormément, en fait, qui est très défaillante.
J'ai vu passer le nom de Ludmilita Odobescu, qui est visiblement actuellement la représentante de la Roumanie à la Commission.
Celui-ci, je ne l'ai pas entendu au sein des... vraiment dans les coulisses roumaines et au sein des contacts que j'ai. Celui-ci n'a pas été vraiment évoqué. Mais en tout cas, j'ai beaucoup entendu de Mureșan. Mais après, on ne sait pas exactement, vu que déjà, le gouvernement n'est pas formé. Donc, c'est très difficile de désigner un candidat dans des conditions où le pays lui-même n'est pas stabilisé. Donc, et en plus, on a des élections présidentielles le mois prochain, donc dans quelques semaines, même pas.
Irène Costelian, c'est important pour le gouvernement roumain d'avoir un ou une commissaire ? Ou est-ce que finalement... l'enjeu politique n'est pas colossal?
Je pense que c'est important pour tous les pays d'avoir un représentant à ce niveau-là, évidemment, puisque c'est l'Union européenne et que tout le monde veut avoir quelqu'un qui le représente.
Mais...
après, il ne faut pas penser qu'il faut avoir un représentant à tout prix. Je pense que la Roumanie, après ces années un peu sombres qu'elle vient de traverser, avec une image assez lointaine, malgré le fait que ce soit quand même un pays qui reste et qui demeure le plus pro-européen dans l'Union, a besoin de se refaire une image et a tout intérêt à placer quelqu'un qui est irréprochable et qui sera d'une qualité assez exceptionnelle à un poste comme celui-là. Et à défaut, il vaudrait mieux qu'ils s'abstiennent, ça c'est clair. Pas recréer ou entretenir une image négative qui est souvent pas très mérité, puisqu'il y a des gens extrêmement méritants en politique en Roumanie, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou même en politique en interne.
Olivia Costa, peut-être une réaction en duplex de Bordeaux, et ça sera même presque la conclusion, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, Olivia Costa.
Oui, je pense qu'il y a un plan B pour les Roumains. Il y a deux solutions. Soit ils prennent un député européen, et comme ça a été dit, on a des députés européens qui sont de très grande qualité. C'est la stratégie, par exemple, qu'a suivi la Bulgarie depuis quelques années, d'aller chercher au Parlement européen des gens compétents. Et la commissaire bulgare Maria Gabriel a toute la réputation de compétence et de probité qu'il faut. L'autre solution, c'est d'avoir un commissaire technique, aller prendre un prof d'université, un diplomate, quelqu'un qui connaît bien les choses européennes. Ça s'est beaucoup fait à la Commission européenne jusque dans les années 80, quelqu'un comme Raymond Barre et a commencé la politique en étant nommé à la commission en tant que prof d'université, et c'est une solution qui permet de contourner la difficulté. Ensuite, sur l'importance d'avoir un commissaire, elle est centrale, parce qu'il faut bien voir que les commissaires ont un portefeuille, mais sont aussi partie d'un collège et ont cette compétence transversale. Toutes les décisions de la commission doivent être adoptées par l'ensemble du collège des commissaires, et ça veut dire qu'un commissaire, fonctionnellement, même s'il a un tout petit portefeuille, a un droit de regard sur tous les autres dossiers. Alors bien entendu, il n'est pas là pour défendre des intérêts nationaux stricts en sensus, mais ça va quand même jouer de manière assez importante dans les délibérations.
Clémentine Forissier.
En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que Juncker avait dit ce sera la commission de la dernière chance. Il a survécu après une série de crises, je pense qu'on a tendance à oublier, mais assez incroyables, entre la crise grecque, la crise des migrants, le Brexit. Et il y a quand même un certain nombre de réglementations qui ont été adoptées par rapport à ce qu'il avait annoncé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, elle a survécu. Il y a un héritage. Là, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel va être le cap que va réussir à fixer Ursula von der Leyen, et dans quelle direction est-ce qu'elle va réussir à faire avec ce Parlement européen très, je dirais, mouvant.
Mais donc, vous considérez que le bilan de la commission Juncker est plutôt positif, compte tenu en tout cas de la situation extrêmement délicate.
Disons qu'il a réussi à sauver l'édifice, parce que franchement, c'était crépusculaire à un moment à Bruxelles après la série de crises très profondes qu'a vécu l'Union européenne. Et il y a toute une série de textes qu'il avait annoncés qui ont été votés. Après, aujourd'hui, justement, sur les projets structurants et la vision qu'on veut avoir de la suite de l'Union européenne, c'est très flou. Et c'est là que je pense que cette mandature va être importante.
Service is not that expensive, but that takes commitment, and you just don't have it. Feels so effortless to be a stranger, but feeling foreign, such a lonely habit. You can't crop yourself out of the picture, out of focus, but still framed inside. Well, the land got blurry, and my heart started hurting.
Merci beaucoup à Irène Costellion qui était avec nous par téléphone, qui est correspondante à Bucarest de Libération. Un grand merci à Olivier Costa qui était avec nous en duplex de Bordeaux. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui étaient avec nous et qui ont permis justement de faire la liaison jusqu'à Paris. Un grand merci également à vous, Clémentine Forissier. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Contexte, le journal des politiques françaises et européennes. On poursuivra évidemment nos pérégrinations européennes demain dans notre série consacrée à l'Union européenne et ce nouvel élan peut-être à venir. Scenes of plastic confession, telling pretty stories, is it your sole purpose? Telling everybody that you've learned your lesson, but no one. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous parlez de démocratie. Quand on parle de démocratie, évidemment, on va du côté des États-Unis. Depuis Tocqueville, c'est le laboratoire de la démocratie.
Et oui, les tendances de fond, celles qui vont bouleverser nos mœurs et notre vie politique, y naissent. Dans sa conclusion à la seconde édition de son ouvrage fameux De la démocratie en Amérique, Tocqueville écrivait que l'un des traits les plus frappants et les plus généraux du système démocratique, ça lui paraissait être une forme de moyennisation. Je cite: presque tous les extrêmes s'adoucissent et s'émoussent, presque tous les points saillants s'effacent pour faire place à quelque chose de moyen, qui est tout à la fois moins haut et moins bas, moins brillant et moins obscur que ce qui se voyait dans le monde. Tocqueville, l'aristocrate, déplorait, lui, cette tendance à l'uniformisation et au conformisme qu'il avait été l'un des premiers à déceler dans la dynamique interne des démocraties. Et il la voyait à l'œuvre à la fois dans l'évolution sociale et dans les programmes politiques des partis en compétition pour le pouvoir. Les grandes passions intellectuelles, les grandes ambitions personnelles caractéristiques des régimes aristocratiques étaient censées disparaître. À leur place, la défense de petits intérêts vulgaires, la recherche de consensus, avec quand même le risque de la tyrannie majoritaire. Tout a ainsi longtemps convergé vers le centre aux États-Unis. Jusqu'à la fin des années 60, vous aviez des républicains de gauche et des démocrates de droite. Et jusqu'à une date encore plus récente, les élections, on le sait, se gagnaient au centre. Il fallait convaincre la frange des électeurs indécis, ce qu'on appelle les indépendants, qui refusent leur fidélité à l'un des deux grands partis rivaux, démocrates et républicains. Le système bipartisan lui-même était censé prévenir toute dérive extrémiste. Les radicaux y étaient marginalisés. Et dans les années 90, on inventa même la triangulation. Avec Bill Clinton, la gauche promettait de favoriser le business et elle était sécuritaire, tandis que la droite promettait des programmes sociaux ambitieux. Les présidents élus étaient souvent contraints de modérer leur programme de gouvernement afin de trouver des arrangements avec des majorités au Congrès passées lors des mid-termes, en particulier à l'opposition.
Mais Brice, cette période est terminée, l'élection de Trump y a mis fin.
Eh oui, le système politique des États-Unis paraît dorénavant inapte à susciter des compromis. La polarisation idéologique a atteint des niveaux jamais connus depuis la guerre de sécession. Elle n'oppose plus le sud esclavagiste au nord industriel, mais les habitants des grandes villes, en particulier celles situées sur les deux côtes, Atlantique et Pacifique, à ceux des comtés en déshérence de l'Amérique profonde. Vous avez d'un côté ceux qui veillent sur leur ligne et ceux qui se nourrissent mal et que menace l'obésité. Mais contrairement à tout ce qu'enseigne le marxisme, ce sont dorénavant les pauvres qui votent à droite et les riches à gauche, le niveau d'éducation faisant la différence. De ce clivage, le livre de Laurence Simon, « Les bobos américains », offre un aperçu saisissant. L'auteur, ancienne chef du bureau de Radio France aux États-Unis, s'est installée sur place et elle a pris la nationalité américaine. Elle décrit une Amérique écartelée entre une ancienne classe ouvrière abandonnée à son sort et qui survit des aides sociales, tickets alimentaires, aide au logement, aide aux factures domestiques, Medicaid, d'un côté, et puis de l'autre, l'Amérique des bobos, ces urbains passés par les bonnes universités où ils ont été, selon elle, copieusement endoctrinés. Car, selon Laurence Simon, les bobos sont devenus les suiveurs des totos, une élite intellectuelle convertie aux nouvelles idéologies totalitaires de la gauche radicale. Persuadée de sa propre supériorité morale, cette nouvelle gauche radicale donc fait régner depuis plusieurs décennies déjà sur les campus un climat intellectuel délétère. Les étudiants ne sont plus invités à débattre, mais à assumer des identités de préférence victimaire et à empêcher, à interdire, à proscrire tout ce qui s'écarte d'un politiquement correct conçu de manière de plus en plus restrictive. Depuis le temps que se poursuit cette entreprise d'endoctrinement, il était inévitable, selon Laurence Simon, que cela se traduise par une gauchisation du Parti démocrate. Et c'est en effet ce qui se produit. Mais un populisme de gauche doit-il faire face au populisme de droite incarné par Trump? La question que se posent les stratèges du Parti démocrate est: pour l'emporter face à Trump en 2020, faut-il miser sur une candidature dite « excitante » sur une personnalité qui galvanise les électeurs démocrates et les pousse à venir voter, ou plutôt sur une personnalité moins clivante, mais capable de rassurer un électorat centriste dérouté par la récente radicalisation des démocrates? Eh bien, interrogé sur cette question par le New York Times, le politologue Dave Wasserman doute que les électeurs de la classe ouvrière blanche passés chez Trump puissent être séduits par ce tournant. Les démocrates devraient plutôt, selon lui, se débarrasser de l'image d'élite des deux côtes que trimballent tant l'universitaire Elizabeth Warren que Kamala Harris, la sénatrice de Californie, toutes deux comme on sait pressenties pour la candidature.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain.